Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
RMC, Lae, l'amour et vous, Brigitte Lae.
Nous écoutons le témoignage de Willy sur le slow sex, une philosophie de penser la sexualité.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour, vous invitez la chaîne. Et suite à un grave accident, en fait, c'est moi l'accidenté, en fait, et c'est dans un souci en fait de confort pour ma part, et puis ma compagne s'y est très, très bien habituée. Je dirais que c'est une pratique obligatoire, c'est pas une pratique non plus, je pense, désagréable pour celui qui connaît pas autre chose.
Mmh. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en effet, faire l'amour lentement, parfois, c'est une obligation, et puis c'est mieux que de ne pas plus faire l'amour du tout, voilà, et puis après, on s'adapte. J'ai envie de rappeler que l'être humain peut s'adapter à tout.
Oui, c'est à nous de découvrir d'autres formes de pratiques sexuelles, pas celles auxquelles on s'attendait, etc. Pas besoin d'être un taureau dévastateur, on peut faire ça doucement, et au contraire, je pense que ça accroît le plaisir, ça accroît encore plus l'union et la fusion dans le couple, parce qu'on regarde d'autres choses, on est sensible à d'autres choses également. On va travailler sur d'autres régions du corps.
D'ailleurs, s'ils étaient d'accord avec nous, moi j'avais lancé le vote que ça améliorait le ressenti et oui. C'est exactement ce que vous venez de dire.
Je suis totalement d'accord.
Oui, bien sûr.
Oui, je suis entièrement d'accord aussi parce que de toute façon, je dirais que pour quelqu'un, je dirais dans, par exemple dans mon cas, qui est obligé de le faire, ma compagne n'est pas obligée de le faire. Elle a connu d'autres hommes avant. Et quelque part, elle me dit carrément qu'elle préfère cette façon de faire qui est pas douloureuse parce que je pense pas que quelqu'un lui ait fait mal avant, mais qui quelque part apporte cette souplesse, cette harmonie, et puis le temps de faire les choses, quoi, tout simplement. Mm-hmm. Et effectivement, vous parliez aussi de la contraction, du coup, elle en joue, elle est même obligée de faire attention à pas trop se contracter par rapport à la douleur que moi je pourrais avoir. Si elle se contractait trop. Donc, évidemment, si le couple n'est pas en osmose, s'il n'y a pas la communication dont on parle assez souvent, effectivement, on n'y arrive pas, quoi. Après, pour certaines personnes, je dirais, dans certains cas, on parle souvent de pratiques pour les gens normaux, mais c'est vrai que pour les gens qui ont... Alors, un handicap, si petit ou si grand qu'il soit, il y a des pratiques qui vont forcément être différentes. Chacun doit s'adapter. Et c'est dans l'écoute de l'autre qu'on prend forcément du plaisir, quoi.
Et en plus, ça nous rapproche les uns et les autres, enfin l'un et l'autre dans le couple, et ça permet de communiquer également dans le couple à travers ces jeux de regard, sans avoir à se dire des choses. Il y a cette complicité qui va s'accroître également dans le quotidien, pas uniquement dans le rapport sexuel. Ça y irradie d'autres domaines d'échange.
Oui, puis je pense aussi, ça me fait penser tout d'un coup que les personnes qui sont particulièrement âgées, grand âge, c'est aussi une bonne manière de continuer à avoir des rapports sexuels sans risquer de se faire un lambeau, bagot, par exemple.
Oui, voilà, c'est ça, parce qu'après, il n'y a pas non plus que le love sex, il y a le slow sex, je veux dire, il y a aussi dans la position de tous les jours, moi, il y a des prothèses, il y a des choses comme ça, effectivement, voilà, je veux dire, si la partenaire, pour mon cas, s'adapte pas, c'est, voilà, moi ma compagne, elle me connaissait au moment de mon accident, donc elle m'a toujours connu comme ça, je dirais, quand on en parle, c'est-à-dire, ça dérange... Elle, ça la dérange aucunement, et pourtant, elle a connu autre chose avant, donc...
Merci beaucoup
Et il n'y a pas eu d'adaptation, ça s'est fait naturellement, quoi.
Merci beaucoup de ce témoignage, Willy. C'est bien, hein. Au moins, on va pouvoir peut-être donner des idées à beaucoup de personnes qui nous écoutent.
RMC, le meilleur de Brigitte Lae.
Bonjour Emma.
Bonjour Brigitte. Disons que j'ai un ami qui est mon ami. On a quelques années de différence, je crois 16 ou 17 ans, hein, je ne sais plus trop.
Il est plus vieux que vous, j'imagine.
Oui, il est beaucoup plus vieux que moi. Et je sais que je peux compter sur lui. c'est une amitié qui est forte, très 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 forte. Je l'appelle mon grand frère, il m'appelle sa petite sœur. C'est mon amoureux amitié, c'est-à-dire qu'il ne s'est jamais rien passé, que ce soit au niveau sexuel, où on ne s'est jamais embrassé, rien du tout. Il y a toujours eu de la tendresse, des câlins, de la confiance, il y a toujours eu quelque chose de magique. C'est magique, mais à aucun moment...
Oui, j'entends bien voilà. D'ailleurs que c'est important qu'à aucun moment il y ait confusion. Hein.
Non, il n'y a jamais eu... on n'a jamais même... On en a parlé une fois en se posant la question justement si c'était normal, si on était normal, parce que, bon, c'est quand même un bel homme. Donc voilà, mais il ne s'est... non, jamais rien passé.
Il y a combien de temps que vous êtes amis ?
Qu'on est vraiment amis comme ça fait à peu près un an.
D'accord, oui, donc c'est quand même une amitié assez récente hein, pour l'instant.
Oui, c'est récent.
Un an, c'est peu.
Mais on s'appelle tous les jours, même parfois plusieurs fois par jour. Parfois, on s'appelle même la nuit quand l'un ou l'autre ne va pas. On se donne des conseils mutuellement.
Et vous êtes l'un et l'autre en couple ?
Alors non, c'est assez compliqué. Lui, il a une instance de divorce. Mmh. Donc là, il a des chéris. Et puis bon, moi j'ai des chéris comme ça aussi, mais voilà. Il n'est pas jaloux de mes chéris, je ne suis pas jalouse de ses chéris. Voilà.
D'accord. Bah, écoutez, visiblement, vous avez sans doute des affinités fortes. Et puis, pour des raisons qui ne nous regardent pas d'ailleurs, hein, l'un et l'autre, vous avez... pris la décision, alors c'est une prise de décision assez inconsciente, hein, mais pris la décision de ne pas aller au-delà de cette amitié. Sans doute que c'est une manière de protéger cette amitié. Peut-être que si en effet vous faisiez l'amour ensemble, ça serait pas pareil. C'est-à-dire que quelque part c'est une sorte de père protecteur. Vous l'appelez votre grand frère, hein, c'est pas anodin. Il y a quelque chose de l'ordre de l'affection qui doit être très très forte. Et c'est vrai que le charnel parfois nuit à ce genre de relation très dans l'affect et la confiance et la confidence.
Voilà. Ah oui, ça c'est bien que vous en parliez de ça, parce que c'est effectivement, à un moment donné, on s'est posé cette question-là et on s'est dit, je lui plais, il me plaît physiquement, mais on ne veut pas. Et on s'est dit, si jamais on passe le cap, est-ce qu'on retrouvera cette complicité-là ou pas ? Et de peur de louper cette complicité-là, on préfère ne rien faire.
Voilà. Oui, alors en fait, ce qui se passe souvent quand il y a une relation d'amitié qui finalement... va jusqu'à un rapport sexuel. Si les deux sont sur la même longueur d'onde, bon, finalement, se prennent un peu de plaisir et puis après repartent sur une relation d'amitié, ça pose pas de problème. Le danger dans ce genre de choses, c'est qu'il y en ait un des deux qui soit plus dans l'envie de continuer la relation charnelle et pas l'autre. Mmh. Et c'est là, en effet, où ça peut détruire un peu l'amitié. Donc, votre système, il fonctionne bien. Vous avez l'un et l'autre, de toute façon, des relations sexuelles ailleurs. Moi, je vous conseille, en effet, de maintenir ce cap-là. Mm-hmm. Ce qui peut poser souci, en revanche, c'est si l'un ou l'autre s'engage réellement avec quelqu'un, ce quelqu'un pourrait être jaloux de cette amitié, qui est quand même une amitié qui va au-delà d'une amitié simplement amicale. Hein. On sent qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'affect très fort quand même entre vous.
Ah oui. Ah oui, c'est vraiment très très fort. C'est vraiment très très fort. On passe pas une journée sans s'appeler ou s'envoyer des SMS. Et puis bon, moi, c'est quand même la condition quand j'ai une relation qui me semble assez durée, c'est d'en parler à ces hommes-là, dire voilà, attention, j'ai mon grand frère. C'est pas mon grand frère, mais c'est mon grand frère. Voilà. Et lui, de son côté, c'est pareil. Parce que ça, pour moi, il passera avant mes petits amis, ça c'est certain.
Oui, mais c'est bien que vous le pensiez. Vous avez tout à fait raison, mais c'est pas forcément nécessaire de le signaler.
D'accord.
Parce qu'en le signalant, quelque part, vous mettez déjà celui qui serait votre amoureux un peu sur la touche. Et ça, c'est franchement pas agréable. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous avez un homme qui vous plaît, avec qui vous avez envie de vous engager, ben n'en parlez pas de cette manière-là. Ça, un moment ou un autre, vous lui présenterez votre grand frère, comme vous dites, ou votre ami. Mais ne dites pas que de toute façon c'est comme ça, et parce que là vraiment ça peut être très très mal ressenti. Alors que si ça se passe tout à fait normalement, il y aura aucun problème. Merci Emma, en tout cas, de votre témoignage. Et puis, une onde positive. Je vais vous parler de spiritualité, et parce que le mot spirituel partage la même racine que le mot respiration. C'est une racine qui désigne la dynamique d'un souffle reçu et donné. Et voilà, je crois que c'est important, parce que moi je vous parle souvent de la respiration, et je crois qu'on ne peut avancer dans la conscience de soi que en apprenant à mieux respirer. Et c'est vrai qu'après on peut monter jusqu'à la spiritualité, mais en tout cas on a tous envie de savoir qui on est, d'être un peu mieux avec soi-même. Et bien, si on veut avancer sur ce chemin de connaissance de soi, il faut apprendre à bien respirer. Voilà, et peut-être que ça peut avoir du sens pour certains d'entre vous qui m'écoute. On retrouve Lionel maintenant. Bonjour Lionel.
Bonjour Brigitte, bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes séparé donc de votre épouse à cause d'un problème de communication, c'est ça ?
Alors, le problème, enfin, je ne suis pas séparé. C'est-à-dire que, pour vous expliquer très rapidement, j'ai été chef d'entreprise où j'avais du personnel, j'ai rencontré quelqu'un dans cette entreprise, et donc ça a forcément créé une séparation dans mon couple, et pour récupérer mon épouse et mon couple, je me suis séparé de l'entreprise. Et je retravaille toujours en indépendant aujourd'hui tout seul, et j'ai un projet de nouveau remonter une entreprise un peu plus grande. Ça fait plus de 7 ans aujourd'hui que tout ça s'est passé. On s'est retrouvés, on va dire, on est très très liés. Et aujourd'hui, mon épouse vit très très mal mes ambitions en fait de développement. Et je ne sais pas comment lui faire comprendre que il y a eu une page de tournée et que
bien sûr. Mais ça, c'est très humain. On a toujours peur que les mêmes faits reproduisent les mêmes conséquences. Donc, vous étiez chef d'entreprise, vous avez craqué pour une de vos employées, hein, si j'ai bien compris.
Tout à fait.
Bon, là, si vous remontez une entreprise, elle est persuadée que vous allez recraquer pour une collègue, enfin pour une femme. Donc c'est sa peur. Et là, franchement, je crois que ça vaudrait le coup qu'elle aille consulter pour essayer de débloquer cette chose qui s'est mise en place. Hein. On pourrait presque, vous savez, c'est un petit peu comme quand on a eu un accident de voiture, on remonte en voiture avec la peur d'avoir un accident. Et comme en ce moment, tous ceux qui prennent l'avion ont peur que l'avion se crache. Hein. Voilà, c'est notre, à la fois c'est notre intelligence, mais parfois notre capacité donc d'anticiper l'avenir, mais parfois elle joue contre nous, cette capacité d'anticipation, voyez. Et là, on est vraiment dans ce cas-là. Et vous aurez beau la rassurer, il faut qu'elle aille décrocher, si vous voulez, ce neurone qui s'est, ce fusible. Là, il y a un fusible qu'il faut faire sauter.
Ah oui, complètement, parce que on a beaucoup de communication, on a la chance depuis ça de communiquer énormément. Avant, on communiquait peu, hein, puisqu'on s'est lâché la main tous les deux. Et là, aujourd'hui, j'arrive plus, je sais plus comment.
Non, vraiment, non, mais vous êtes face à une sorte de phobie, enfin une sorte c'est vraiment quelque chose qu'il faut débrancher, et plus vous allez la rassurer, de toute façon, plus vous allez perdre un petit peu de votre calme, si je puis dire, parce que c'est vrai que c'est pénible. Vous êtes certainement mordu les doigts d'avoir fait ça, donc vous n'avez pas vraiment envie de recommencer. Vous êtes au contraire, je dirais, dans un fonctionnement inverse. S'il y avait la moindre collègue qui puisse être un petit peu attirante, tout de suite vous allez tourner la tête pour regarder ailleurs. Bon, mais elle est persuadée du contraire, et c'est ça qu'il faut absolument arriver à résoudre. Je pense vraiment que là, ça vaudrait le coup qu'elle, que quelqu'un d'autre que vous lui explique ce processus humain.
D'accord.
Ou alors expliquez-lui avec des exemples qui n'ont rien à voir avec vous, ni avec l'affectif.
Oui, mais je crois, en fait, déjà l'entreprise divise le couple, puisqu'en fait j'ai porté un bébé tout seul qui était l'entreprise, et donc qui a grossi, qui a grandi, et ça nous a complètement séparés. Je crois qu'il y a ça aussi aujourd'hui, elle a peur que déjà l'entreprise nous sépare un peu.
Alors la solution, Lionel, vous avez raison, quelque chose qui demande beaucoup d'investissement de l'un et pas de l'autre, peut séparer le couple, peut en tout cas éloigner le couple. La solution dans ce cas-là, c'est de la mettre partie prenante dans cette création de nouvelles activités professionnelles. Et à ce moment-là, au lieu de la sentir un petit peu à l'écart, vous allez la faire rentrer dans votre univers et dans votre désir et dans votre projet.
Ouais, seulement, c'est pas du tout dans ses compétences professionnelles et ça lui plaît pas.
Oui, alors il faudrait peut-être trouver quelque chose quand même qui puisse être dans ses compétences. Je ne sais pas quelles sont ses qualités à votre femme, mais elle a forcément des qualités.
Tout à fait.
Bon, alors quelles sont ses qualités, Lionel ?
Eh ben, elle est auxiliaire de l'agriculture, donc avec les enfants, moi ça n'a rien à voir, je suis dans l'administratif, donc vous voyez, c'est deux mondes différents.
D'accord. Vous mettez une crèche dans l'entreprise et vous n'engagez que des femmes qui ont beaucoup d'enfants. Non mais je plaisante un peu, mais voyez, il faut trouver un moyen qu'elle se sente investie dans votre projet également.
Oui, il faut que j'arrive à l'impliquer d'une manière ou d'une autre dans l'entreprise.
Absolument, pour calmer cette seconde angoisse.
Parce que moi j'ai vraiment besoin d'elle. Elle m'apporte une sérénité. Elle m'apporte. Enfin voilà, c'est mon pilier. J'ai besoin d'elle. Et sans elle, je sais que pour moi la tâche sera beaucoup plus ardue. Mais c'est vrai que elle arrête pas de freiner quoi.
Parce qu'elle a peur de vous perdre et parce que aussi, et c'est pour ça que je pense que vraiment ça mériterait que vous alliez consulter, elle n'a certainement pas complètement digéré ce qui s'était passé il y a quelques années. Donc il y a encore une petite blessure qui n'est pas totalement cicatrisée et là vous êtes en train de la réactiver cette blessure et c'est pour ça que ça pose des problèmes. Donc peut-être quand même aller tous les deux consulter un petit peu pour pouvoir vraiment mettre au clair tout ce qui gêne un peu entre vous.
D'accord, ben je vous remercie beaucoup Brigitte.
Ben je vous en prie Lionel, je suis là pour ça. Merci à vous.
Merci, bonne journée.
Au revoir.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaye.
Et un petit tour du côté d'RMC.fr. Bruno Martin, c'est Kathleen qui nous envoie ce mail. Je suis en relation depuis 5 ans avec un homme qui est en couple depuis plus de 10 ans avec une autre femme qu'il n'aime plus a priori. Après 4 ans de relation, il m'a dit et affirmé qu'il souhaitait faire sa vie avec moi. Depuis, j'attends toujours qu'il quitte sa compagne. En 2013, il a eu un enfant avec elle et ça m'a vraiment fait du mal. J'ai tenu bon, je suis toujours là à l'attendre. Je lui montre de toutes les façons possibles que je veux faire ma vie avec lui. Il me dit aussi qu'il a envie de le faire, mais je ne vois rien venir et je n'ai pas envie de rester dans cette situation, mais je n'ai pas envie non plus de lui donner un ultimatum. Que pourriez-vous me conseiller? Voilà. Alors, c'est toujours très complexe quand on a une relation avec un homme qui est marié et que cet homme a un enfant. Parce que là, ça remet du lien, si je puis dire, dans sa relation familiale. Il n'y a pas de doute.
Oui, puis les hommes ont cette espèce de complexe de loyauté. Hein. Si je ne suis plus constructeur, nourricier, sécurisant dans ma famille, je suis plus un homme. C'est notre premier rôle. Et ce rôle-là, en partant de chez soi, on l'abandonne et on est castré à moitié. C'est pour ça que les hommes ont du mal à partir. 9 fois sur 10, ils restent. Ils sont d'accord pour additionner, mais pas pour sélectionner.
Diviser, oui, non, bien sûr. Non, mais c'est vraiment compliqué, Kathleen. Je pense que cet homme, il est incapable de quitter sa femme avec un enfant en bas âge. Donc, après, est-ce que vous allez le supporter? Ça fait très très mal quand on est amoureuse d'un homme et que tout d'un coup, on découvre qu'il y a un enfant avec une autre. Parce que quelque part, l'enfant, c'est quand même le plus beau symbole de l'amour d'un homme et d'une femme. Donc, c'est normal que vous l'ayez très, très mal vécu. Maintenant, moi, je vous conseille vraiment de faire le point. Est-ce que vous êtes prête à supporter encore pendant longtemps ou pas? Maintenant, sachant que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, vous souffrirez. Parce que le quitter, c'est aussi souffrir. Donc, il faut faire peut-être le point entre les deux.
RMC, la haie, l'amour et vous. RMC, Brigitte Lahaye, Love Conseil.
Alors je vous propose un duo dos à dos, c'est un exercice qui est assez intéressant parce qu'il vous permet de ressentir et de ressentir de manière très différente. Alors donc en fait, voilà, vous allez vous asseoir en tailleur, dos contre dos, hein, les pieds nus de préférence, et bien l'un contre l'autre. Et tout d'abord, vous allez juste rester comme ça en contact, l'un contre l'autre, sans parler, ça c'est très important. Et ensuite, vous allez essayer de respirer profondément, toujours sans rien vous dire, et en essayant de calquer votre respiration l'un sur l'autre, c'est-à-dire que vous allez inspirer et expirer en même temps, et vous allez voir, déjà rien que ça, c'est pas forcément si facile que ça, il y en a souvent un qui respire plus vite que l'autre, bref, et tout doucement, vous allez sentir une petite confusion entre votre corps et celui du corps de votre partenaire. Et il va y avoir donc des émotions, des pensées parasites qui vont peut-être venir spolier ce lâcher prise. Et ce qu'il faut faire, c'est continuer à rester comme ça, sans se parler toujours, et juste observer vos sensations. Puis peu à peu, vous allez vous détendre et vous allez pouvoir vous appuyer un peu plus l'un contre l'autre. Et c'est à ce moment-là seulement, quand vous vous sentirez un peu apaisé et vraiment en communion, si je puis dire, que à votre tour, chacun votre tour, vous allez dire juste un mot, le mot qui vous vient comme ça à l'esprit. Et ce mot va faire écho à l'autre qui va répondre par un autre mot. Alors, c'est pas le but, c'est pas de créer des phrases, hein, c'est juste de dire un mot et puis un autre mot. Et tout ça, ça va vous faire un petit échange psychique sans réfléchir. Et vous serez vraiment surpris des mots que vous prononcez l'un et l'autre. Et parfois, ça n'aura peut-être a priori pas de sens, mais en tout cas, ça sera très intéressant. Et je peux vous dire que cet exercice, si vous le faites, eh bien, vous allez vous rendre compte de l'intimité que vous avez ou de la difficulté que vous avez justement à être dans l'intimité. Et puis, nous accueillons maintenant Karl Doric. Bonjour Karl Doric, vous êtes ostéopathe.
Bonjour.
Et je vous ai invité parce que beaucoup de problèmes d'ordre sexuel dans les couples viennent de douleurs, surtout de la femme, hein, bien sûr. Des douleurs qui sont souvent assez négligées par les gynécologues parce qu'en fait, il n'y a rien sur un plan, j'allais dire, anatomique médical.
Alors, pathologique, il n'y a pas forcément quelque chose, on ne trouve pas forcément. En fait, on peut aujourd'hui se poser un peu par rapport à l'homme qui va avoir des relations sexuelles correctes, normales, prendre plaisir avec sa partenaire. Et malheureusement, la partenaire a des souffrances, a des douleurs. On appelle ça des dyspareunies. On a différentes causes. On a des grandes causes organiques et des non organiques. Nous, ce qui nous intéresse en ostéopathie, c'est les causes qui sont organiques, donc qui viennent des tissus, des viscères, du corps. Les non organiques, c'est plutôt un ordre psychique, psychologique.
Bien sûr, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant à comprendre, évidemment, c'est que ces causes organiques ne sont pas forcément visibles par la médecine entre guillemets traditionnelle, parce que c'est des mauvaises positions du corps qui finissent par créer des tensions ou des nerfs qui sont pas.
Enfin, toute une partie.
Je suis pas ostéopathe, hein, mais je crois que c'est important d'expliquer quand même, parce que pour ceux qui nous écoutent, c'est vrai qu'a priori, on va voir un médecin, non, il n'y a rien, bon, ben donc il n'y a pas de raison qu'on a mal, donc c'est dans la tête, quoi. Il y a un peu ce discours-là dans notre monde occidental.
Voilà, tout à fait. Ce qui est important, c'est de. Alors, il y a toute une partie où la médecine classique peut tout de suite le voir avec des examens. Avec un examen gynécologique classique, mais il y a tout un autre registre où pour eux il n'y a pas trop d'anomalies ou de pathologies infectieuses déclarées ou qui ne se voient pas à l'imagerie. Et pourtant la personne, la femme souffre lors de ces rapports et ça pose un problème dans le couple. Réciproquement, après il y a un cercle vicieux, c'est-à-dire que
on a peur d'avoir
mal, donc le conjoint n'est pas très content et ça crée un mauvais climat, etc. Mais le premier message, déjà, c'est peut-être que la femme peut s'observer, hein, et sentir un petit peu ce qui se passe. Est-ce que c'est une douleur en superficie, comme un type d'irritation, ou alors c'est plutôt à l'intérieur? Elle peut même se toucher, palper, un petit peu voir pour... Déjà, et quand est-ce que ça arrive? Le moment où ça arrive, est-ce que c'est juste au début de la pénétration? Est-ce que c'est en profondeur? Et on va le voir un petit peu plus en détail tout à l'heure. Tout ça, ça peut aider pour le diagnostic aussi.
Est-ce qu'elles arrivent à en parler à leur partenaire ou souvent, justement, en plus, elles n'osent pas en parler?
Il y a les deux cas. Hein. Vraiment, je pense que quand la douleur est vraiment forte, de toute façon, la femme ne peut pas continuer. Hein. On retrouve ça parfois dans des positions. Ce qui nous intéresse souvent, c'est dans l'autre registre, ce sont des douleurs un petit peu plus en profondeur. Et souvent, on retrouve une position, plutôt quand le partenaire est derrière, en fait. On appelle ça un choc balistique. Et la personne a mal, et donc elle ne peut pas, donc elle change de position. Et parfois, l'homme s'en rend compte parce qu'il aime bien cette position-là. Et c'est pas possible.
Alors, qu'est-ce qui se passe dans le corps de ces femmes, justement?
Alors, dans les dyspareunies, donc les douleurs au rapport durant la pénétration, on va commencer déjà un petit peu en surface. Donc, on peut avoir une contraction musculaire, on peut avoir une infection. Là, c'est plutôt du registre de la médecine. Une cystite, une mycose, même une MST qui peuvent créer une irritation. Après, on a tout le système un petit peu dermatologique, c'est-à-dire des eczémas ou des irritations dues à un manque de lubrification, qui peut être dû à un problème, je dirais, métabolique ou tout simplement de désir. Et on a encore après tout ce qui est post-chirurgical, notamment les femmes qui ont eu soit une intervention chirurgicale ou alors pour les femmes qui ont eu des enfants avec l'épisiotomie. Mmh. On travaille énormément là-dessus. On a des épisiotomies qui ne posent pas de problème, mais certaines qui peuvent durer pratiquement toute la vie de la femme, en fait. Donc c'est très très important.
Oui, le nombre de femmes qui, après une épisiotomie, ont des douleurs, c'est quand même quelque chose de très récurrent et qui est souvent très peu pris en compte par...
Elles n'osent pas en parler, et quand elles en parlent, en gynécologie classique, on n'a pas vraiment de solution. Mmh.
Et alors, vous, en ostéopathie, Karl Doric, vous arrivez à résoudre une partie de ces douleurs, j'imagine.
Sur les douleurs dues à des épisiotomies, donc des adhérences, des cicatrices, en fait, on redonne de la mobilité au tissu local et ça marche très, très, très bien. Et donc après, on retrouve une fonction gynécologique, une fonction sexuelle, tout à fait.
Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, moi, je vais le dire avec mes mots, hein, mais c'est que souvent, quand il y a une douleur dans le corps, il y a toute la périphérie qui quelque part se rigidifie, non? C'est un peu ça qui se passe, j'imagine aussi.
Tout est un tout. Donc c'est ça, c'est tout à fait lié. On peut avoir une douleur locale d'une épisiotomie qui va tirer sur le coccyx parce qu'on a des ligaments qui sont très proches et même créer une douleur au dos. On s'en aperçoit bien, notamment dans les femmes. Beaucoup de femmes ont des douleurs lombaires quand elles ont leur menstruation. Donc on a vraiment un rapport en fait avec l'utérus, le système gynéco, avec le dos et qui peuvent remonter après à d'autres symptômes dans le corps. Vraiment, c'est une tout est lié.
Donc il faut pas accepter finalement c'est pas normal d'avoir mal quoi en fait, quel que soit l'endroit où on a mal.
Surtout dans ce rapport, dans ces relations sexuelles, c'est pas du tout normal. Et après, pour poursuivre un petit peu de l'extérieur du corps à l'intérieur du corps, en fait, dans les causes et les lieux de douleur, après on rentre plus dans les femmes le décrivent comme ça, dans des relations des douleurs en profondeur en fait. Hein. Et là on a deux catégories, soit on a des catégories un peu médicales, donc des fibromes qui vont gêner, des kystes, l'endométriose, qui sont des pathologies un petit peu sur les organes en profondeur, l'utérus qui peut coller avec les ovaires, avec les trompes. Et on a encore une fois des relations avec des anciennes opérations, soit digestives, viscérales ou gynéco, qui ont pu créer des tensions et donc la mobilité des organes ne se fait pas. Faut se comprendre tout simplement qu'en fait... quand on a des rapports en profondeur, il y a quelque chose qui devrait bouger, qui ne bouge pas.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que normalement, le bassin est tout à fait fonctionnel.
Exactement. Et quand il y a le rapport, il y a
la femme,
le sexe de l'homme qui rentre. Et tout simplement, les organes doivent avoir une certaine forme de mobilité. Et donc, il n'y a pas de douleur. S'il y a une douleur, c'est que ça ne bouge pas.
Mais est-ce qu'il peut y avoir des femmes qui, justement, parce qu'elles sont assez inquiètes du rapport, parce qu'elles ont peut-être peur de la sexualité, qui finalement se bloquent, se figent et finissent par avoir mal?
Oui, bien sûr. Le cas extrême, c'est le vaginisme. Mm-hmm. Il y a vraiment une contraction involontaire de tous les muscles et donc il n'y a aucune pénétration, même d'un tampon, c'est impossible. Donc là, c'est le cas un peu extrême. Mais oui, avec des... avec un conjoint où ça se passe mal, un port psychologique, la personne peut se créer des tensions avec un manque de lubrification, par exemple, parce qu'elle n'a pas le plaisir et donc elle va se créer...
Parce que finalement, Karl Doric, et c'est peut-être ça qui est important et le message à faire passer, que normalement, une femme ne devrait pas avoir mal lors d'un rapport sexuel. Il n'y a aucune raison sur un plan anatomique qu'il y ait des douleurs.
Si elle n'a pas de maladie, s'il n'y a pas ce qu'on a dit avant... Alors après, il y a quelques cas quand même où il faut parler avec une disproportion morphologique, c'est-à-dire avec un sexe masculin d'une dimension importante et avec un tout petit gabarit, mais là on comprend et ça arrive, hein, ça arrive.
Oui, bien sûr, bah ça c'est et là contrairement à ce que disent certains sexologues, il y a pas grand-chose à faire quand c'est trop grand, ça rentre pas.
Voilà.
Non mais je crois que c'est bien aussi de préciser parce que malheureusement même si le vagin est très adaptable, il y a des moments
et où... souvent on se rend compte que c'est une question de longueur en fait, hein, c'est pas une question de diamètre, c'est une question de longueur et en profondeur, on arrive sur des organes qui normalement ne sont pas en contact.
Donc les hommes qui sont avec une femme qui a des douleurs, peut-être qu'il faut aussi qu'ils soient capables de l'aider à prendre, à consulter, quoi, tout simplement, non?
La première règle, c'est la communication, en fait. Hein. Vraiment, vraiment en parler. C'est-à-dire la femme qui explique ce qu'elle ressent, parce que l'homme n'a pas forcément le décodeur. Et donc, il ne peut pas forcément comprendre ce qu'elle ressent. Donc, la femme qui s'exprime bien par rapport à ses douleurs, là, ça lui fait mal, etc., etc. Pour que l'homme comprenne et éventuellement change ou ait une attitude différente et l'encourager à consulter. D'abord, peut-être en gynécologue pour faire un bilan. Et ensuite, un ostéopathe. Je pense que c'est une des thérapies où on arrive à très rapidement solutionner si c'est pour nous... ce genre de cas.
Et je rassure ceux qui nous écoutent, l'ostéopathie aujourd'hui est reconnue, Karl Doric, hein, ça y est.
Oui, en France, ça y est, on n'est plus l'exercice illégal de la médecine.
les marabouts qui peuvent.
On a le droit. Hein.
Voilà. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour les hommes? Vous pouvez améliorer les qualités de leurs érections, par exemple, en ostéopathie?
Quand il y a un problème de congestion, surtout des hommes, des hommes qui ont un peu de surcharge pondérale ou une congestion du petit bassin, on en a déjà parlé une fois, je crois, et il y a un manque d'irrigation sanguine et donc ça passe pas très bien. Donc tout simplement comme un champ qui est mal irrigué, l'érection se fait pas très bien parce que ça ne passe pas dû à cette congestion abdominale.
Et puis ce qui est aussi très important dans le rapport sexuel, c'est évidemment la partie basse de la colonne. Hein. Dès qu'il y a un petit peu de douleur dans le bas du dos, ça peut provoquer des douleurs durant l'acte sexuel. Et donc là, il faut pas rester avec son mal de dos. Là,
voilà, ou l'inverse même. On a eu des patients récemment, qui ça a été un peu brutal et la personne s'est fait mal et donc elle est venue avec un petit peu de honte pour dire la cause de son douleur au dos. Oui. Et bon,
une position du Kamasutra un peu scabreuse et puis ça a provoqué donc un mal de dos et
pas toujours facile de l'avouer à son ostéopathe la cause en fait.
Bon vous êtes quand même assez ouvert les ostéopathes, oui. Non Carl Doric, vous êtes pas comme les psychiatres qui donnent des pilules pour tuer la libido.
On ne donne rien. On ne donne rien.
Parce que de toute façon, la sexualité, c'est une énergie, j'imagine, très. Enfin, j'imagine pas, je le sais d'ailleurs, c'est une énergie très importante qui est quand même. C'est dommage de s'en priver.
Ça fait partie de la vie, c'est vraiment, comme on dit souvent, c'est une fonction comme la digestion. C'est une fonction.
Oui,
donc
mais
on peut pas s'en passer.
Oui, c'est ça. On peut pas. Et pourtant, on entend beaucoup qu'on peut s'en passer, que c'est pas vital.
On va le compenser.
C'est ça.
On va le compenser par un travail spirituel ou alors des compensations addictives, justement pour compenser un manque.
L'infertilité, c'est un sujet que vous abordez, Carl Doric, hein, je crois.
Oui, de plus en plus dans mes différents cabinets, on a plus en plus de patientes, de familles qui ont malheureusement une difficulté à avoir un enfant. Et l'ostéopathie, je pense, par sa simplicité, par sa logique, est reine dans ce domaine pour tout couple qui a fait des examens, qui s'est avéré que c'est non explicable leur infertilité.
Alors, je rappelle que normalement, on doit commencer à s'inquiéter de l'infertilité lorsque on est en couple et qu'on essaye depuis avec des rapports très réguliers, c'est-à-dire plus au moins deux fois par semaine. Et si d'un an et demi, deux ans, il n'y a toujours pas de naissance en vue, là, on peut se poser la question en effet de l'infertilité.
Voilà, parce que les ovules ne vivent pas longtemps, les spermatozoïdes un petit peu plus, mais l'ovule ne vit pas très longtemps. Donc c'est vraiment multiplier les rapports autour de l'ovulation. Hein. Donc ça, c'est très important. Hein.
Parce que si on fait l'amour tous les deux mois, au bout d'un an, ne pas être enceinte, c'est assez normal sur le plan des statistiques. Donc revenons à cette problématique d'infertilité. Donc c'est les femmes, je suppose, que vous traitez?
Oui. Mmh. Oui, principalement, c'est les femmes. Tout simplement, on va déjà, toujours le même principe de l'ostéopathie, on va vérifier un petit peu si on peut avoir soit une cause générale, hormonale, donc soit plutôt, on va pas rentrer dans les détails, mais plutôt crânienne et le bassin par rapport aux différentes sécrétions hormonales, par rapport à l'hypophyse, par rapport à tout ça. Et autrement, on peut avoir très simplement, et là c'est très facile à comprendre, des lésions au niveau des organes reproducteurs. C'est-à-dire, on va avoir, là j'avais le cas l'autre jour, pour une insémination, donc pas des fibres, tout simplement l'utérus était une rétroversion très forte et en plus il ne bougeait pas du tout, donc la position de l'utérus était très mauvaise et donc
ça n'arrivait pas à remonter jusque.
Ça c'est une chose très simple. Pour faire très rapide, on a aussi un problème souvent de la fixation dans les fives, par exemple dans les fécondations in vitro avec la réimplantation du futur embryon, on a souvent un problème de fixation sur l'endomètre, c'est-à-dire la paroi qui est à l'intérieur de l'utérus. Et souvent on s'aperçoit qu'il y a une congestion de petit bassin en 90% des cas et la vascularisation de l'endomètre, donc de la paroi de l'utérus, se fait pas très bien. Et par des manipulations très douces, on arrive à redonner une bonne irrigation, une bonne vascularisation au tissu, notamment l'utérus. Et l'endomètre a une meilleure qualité comme un bon terrain, un bon gazon qui va plutôt être fertile en fait.
Donc finalement, c'est juste de remettre les bonnes énergies en place, quoi. C'est...
On va redonner, on peut parler d'énergie, mais on peut parler tout simplement de tissu. Redonner, on travaille beaucoup avec le système sanguin, hein, l'artère ovarienne qui va vasculariser l'ovaire pour avoir une bonne sécrétion hormonale. Et comme je vous disais, au niveau de l'utérus, de redonner une mobilité à l'utérus. Et en une ou deux séances, parfois, ça suffit juste. Alors, faut être très prudent, hein. La fécondation, avoir un enfant, c'est compliqué, c'est beaucoup de paramètres. Mais au niveau de médical, en une ou deux séances, on peut vraiment avoir des résultats incroyables par rapport à une redonner de la vie dans cette sphère-là.
Mais alors, c'est dû à quoi, d'après vous, Karl Doric, ces problèmes d'infertilité qui, c'est parce que les femmes veulent des enfants beaucoup plus tard et que donc le corps est tout simplement moins fertile? Est-ce que c'est
grande
dû
question.
À la pollution? Est-ce que
c'est multifactoriel? C'est-à-dire, je pense qu'il y a l'âge est important, c'est vrai que dans le temps, on était plutôt dans les 20-25, là on est plutôt dans les 35-40, hein, de plus en plus, surtout dans les grandes villes. Donc il faut savoir qu'à partir de 35 ans, l'âge décroît énormément au niveau de la fécondité de la femme. Et après, on a plein de facteurs extérieurs au niveau des polluants. On parle beaucoup des phosphalates, des molécules qui vont imiter certaines hormones. On en est un peu rempli autour de nous.
Sur la fertilité masculine, il semblerait que ça a un effet particulièrement
bien
fort.
Bien sûr, très très fort, femmes et hommes. Donc tout ce qui est pollution environnementale. Et puis après,
Faut aller vivre à la campagne pour avoir des enfants.
Ça peut peut-être aider, mais pas directement tout de suite en tout cas.
Oui, bien sûr, je plaisantais. Mais quels seraient les conseils que vous pourriez donner, Karl Doric, à ceux qui nous écoutent, justement pour, on a parlé tout à l'heure de développement personnel, mais tout simplement pour vivre bien, pour aller bien, pour que son corps soit bien oxygéné, fonctionne bien. Prendre des cours de yoga, par exemple.
Le yoga, c'est une bonne thérapie. C'est plus qu'une thérapie. Ce qui est important, je pense que c'est, pour être très très général, il faut vivre ce que l'on a envie de vivre. C'est-à-dire de vraiment...
Se faire plaisir.
Se faire plaisir, mais vraiment être dans son référentiel. Chaque personne va être complètement différent. On ne peut pas donner une critique ou un jugement par rapport à...
Oui, vous voulez dire que pour certains, il faut faire beaucoup de sport. Pour d'autres, c'est pas la peine.
D'autres ne vont jamais faire de sport. Ils vont s'en porter même mieux. Donc, il faut vraiment être dans son registre.
Mais comment on sait si on est dans son registre?
Finalement, on le sait. On voit avec nos patients, etc. Les gens savent très, très bien s'ils vivent des choses qui ne leur conviennent pas ou non. Ça peut être au niveau professionnel, familial. Ils le savent très bien. Quand on écoute un peu à l'intérieur de soi, on sait qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce que je ne veux plus vivre, qu'est-ce que je veux changer, qu'est-ce qui me perturbe, qu'est-ce qui crée un conflit en moi, en fait.
D'accord, mais pour le savoir et que ça arrive à la conscience, il faut se poser un moment et justement se parler.
Un travail, oui, il y a un travail personnel avec quelqu'un, avec un thérapeute, ou tout simplement être déjà honnête avec soi-même. C'est-à-dire de pas fuir par rapport à notre problème est trop gros, donc je vais dans des compensations.
Karl Doric, j'imagine aujourd'hui que vous avez également de plus en plus de patients qui sont dans le stress permanent. C'est vraiment le mal du siècle, du 21e siècle.
Je vous donne un exemple très simple. Il y a 10 ans de ça, de nos consultations, la personne avait son rendez-vous 15 jours avant et on ne changeait jamais les rendez-vous. Aujourd'hui, les gens appellent 2 à 3 fois 48 heures avant pour changer leur rendez-vous. Bon, je parle à Paris, hein, principalement.
Mais pourquoi ?
Parce que... organisation de vie professionnelle, familiale, ils doivent changer, ils ont une réunion, là ça va pas, l'enfant est malade, la complexité de la vie, les gens n'arrêtent pas de changer, il n'y a pas de stabilité, donc les gens en prennent pour leur grade énormément au niveau de la santé.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que pourtant, son rendez-vous chez l'ostéopathe, c'est quelque chose qui fait du bien, mais ça passe après, peut-être...
Ils sont contents de venir, mais ils n'ont pas forcément le choix, parce qu'ils ont une réunion, ils sont en retard, et la complexité de leur organisation quotidienne fait qu'ils ont du mal maintenant à suivre le rythme, je pense.
Et qu'est-ce que ça provoque, le stress, sur un plan de la santé, sur le corps?
Une oxydation générale. Oxydation, ça veut dire qu'on a des perturbations au niveau du métabolisme, au niveau de tous les tissus, il y a une rigidité, il y a un blocage. Mais le blocage, la vie n'aime pas le blocage.
Donc après, on en a plein le dos et on a mal au dos, c'est ça? Enfin, c'est simplifié.
Le dos, c'est
évidemment.
Juste le baromètre. Oui, on a mal au dos, mais c'est le baromètre, le dos.
C'est le baromètre, oui. Donc en fait, on doit écouter...
Si on a mal au dos, c'est qu'il y a quelque chose qu'on vit qui nous crée un conflit à l'intérieur.
D'accord. Et si on a mal quand on fait l'amour, c'est peut-être parce qu'on n'aime plus son partenaire, alors? Si on va dans ce décodage un peu simple,
Ça peut arriver dans certains cas. Mais bon, les douleurs importantes, quand même, c'est pas souvent.
C'est quand même.
Il y a un désir, il y a une non libido dans ce cas-là plutôt.
Un manque de désir, donc.
Voilà.
Donc, le conseil, s'écouter et puis vivre ce qu'on a envie de vivre, c'est...
Tout à fait.
Merci, Karl Doric, en tout cas.
Merci.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaye.
Et un petit tour du côté de rmc.fr avec ce mail de Nadine qui nous dit « J'aimerais connaître l'avis de Didier pour tout ce qui concerne la nourriture actuelle. J'ai l'impression que les ados se nourrissent aussi beaucoup moins bien qu'il y a quelques années parce qu'il y a évidemment beaucoup de nourriture un petit peu trop bas de gamme. » Voilà ce que nous dit Nadine. Qu'est-ce que vous en pensez?
Tout à fait, ça, les nutritionnistes le savent. Bon, les grands marchés... internationaux de certaines nourritures ont favorisé l'introduction du sucre dans les aliments, et on sait que le sucre est quasiment un poison, surtout pour ceux qui sont intolérants au glucose.
Je crois qu'on a aujourd'hui trois fois plus de sucre dans notre alimentation qu'il y a 30 ans. Hein.
C'est impressionnant. Et puis par contre, c'est ça le problème, c'est que le goût du sucré est bon, ça c'est naturellement bon, puisque l'enfant aime un bonbon, et si on met du sucre, ben on sait que après c'est ce qu'on appelle la junk food, effectivement, combien d'ados et de pré-ados, quand je demande qu'est-ce qu'ils mangent, ils vont me répondre pizza, tout ce qui est mou, mais comme par hasard, tout ce qui est sucré, quoi. Ça veut pas dire qu'il faut pas du tout, ça serait stupide, mais effectivement, faut que l'alimentation soit complètement équilibrée.
Oui, mais en même temps, quand on a un enfant qui mange pas très bien, qui veut des pâtes, des pizzas, des.
Oui, mais ça va être la facilité, c'est toujours pareil. C'est pas facile. Il va manger, ça va se passer bien, puis on en fera peut-être un futur petit obèse, ou alors on lui dit, il y a des choses à goûter sans que ce soit le gavage. Mais c'est toujours pareil. Si en tant que parent, on explique bien ça, que le sucré est très sympa, mais il faut aussi alterner avec des légumes et des choses quelquefois moins goûtues, moins sympathiques, ça passera mieux.
Puis il y a évidemment, et je crois que Nadine a raison, il y a aussi tous ces sodas, coca et autres boissons très...
C'est terrible, parce que là, si on prend pas du light très tôt, des choses comme ça, et encore, ça gardera le goût du sucré, il faut faire très attention. Donc ça veut pas dire qu'on faut être à l'eau gazeuse constamment et à l'eau plate, mais oui, ça doit être régulé, mais c'est toujours pareil, l'enfant peut pas réguler seul.
RMC, la haie, l'amour et vous. RMC, la haie, l'amour et vous, Brigitte Lahaye.
Eh bien, ces dernières minutes vont être tout à fait intenses, puisque dans un instant, vous entendrez Philippe qui nous parlera de cette expérience à trois avec son ex-femme et son amant. Et tout de suite, Jean-Michel Le Gourlian nous raconte les difficultés d'une relation triangulaire.
D'abord, disons que la relation à trois, la relation triangulaire, a été toujours une fascination et une interrogation pour tous les psychologues et les psychiatres. L'exemple le plus parlant, c'est celui de Freud, n'est-ce pas? Le triangle édipien, c'est donc le père, la mère et le petit garçon, avec tout ce que ça comporte comme conséquence sur le plan psychologique et psychopathologique. Donc le triangle édipien, d'ailleurs, je rappelle que Freud est né en 1856 et qu'il est décédé en 1939, et que s'il revenait aujourd'hui parmi nous, il aurait un problème avec le mariage pour tous, parce que lorsqu'il verrait arriver un enfant issu de parents du même sexe, le triangle édipien aurait un peu de mal à se reconstituer ou à trouver un sens de nouveau. Donc par conséquent, il y a un premier problème là qui va se poser et qui va exiger un changement radical de psychologie et de psychopathologie. Premier point. Deuxième point, j'ai tendance toujours à considérer que depuis que j'exerce la psychiatrie et la médecine, c'est-à-dire environ un demi-siècle, il y a un triangle qui m'a toujours frappé. C'est le triangle constitué dans le cabinet du psychiatre ou du médecin en général par le thérapeute d'une part, le patient d'autre part et la maladie ou la névrose en troisième lieu. Et tout le problème, et vous le disiez à l'instant très justement, c'est de savoir si le patient va s'allier avec le thérapeute contre sa névrose
ou son symptôme,
ou s'il va s'allier avec son symptôme ou sa névrose ou sa maladie contre le thérapeute.
Pour mettre en échec le thérapeute.
Le thérapeute et démontrer que le thérapeute est complètement nul, etc. Donc, et enfin, le triangle girardien, le triangle mimétique, c'est le triangle constitué par le sujet d'une part, le modèle de ce sujet, c'est-à-dire celui qui lui désigne l'objet à désirer, et enfin l'objet. Et ça, c'est je pense que c'est l'avenir de la psychologie, c'est de voir les choses de cette manière, parce qu'il n'y a pas de connotation de quelque nature qu'elle soit.
De sexe, vous voulez dire.
Il n'y a pas de connotation sexuelle, il n'y a pas de connotation de. Ça peut être le modèle peut être un individu précis. par exemple.
C'est-à-dire qu'on peut être trois hommes ou trois femmes et avoir la même difficulté. La même difficulté.
Et le modèle peut aussi être un modèle parfaitement non identifiable, c'est-à-dire non précis. Par exemple, la publicité.
Oui.
Par exemple, un programme publicitaire peut être un modèle pour vous amener à porter votre désir sur telle montre ou telle voiture ou telle chose ou tel autre objet. Donc, par conséquent, il y a là un triangle très ouvert, je dirais, mais c'est toujours triangulaire. C'est-à-dire qu'il y a toujours trois pôles à ce mouvement psychologique. Voilà.
Remarquez, les religions aussi ont parlé de ce triangle, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Le Père, le Fils, c'est ça. Je crois que, si vous voulez, la triangulation du désir a généré pratiquement toutes les images métaphoriques, aussi bien de la psychologie que même parfois de la théologie.
Et alors, quelle est la solution pour justement ne pas souffrir de cette triangulation?
Alors, la seule solution que j'ai essayé de trouver et que j'ai essayé d'avancer dans mon dernier ouvrage que vous connaissez,
Le troisième cerveau, oui.
Notre troisième cerveau, c'est de dire que il suffit de faire les efforts nécessaires, qui sont des efforts lents, patients, des efforts vers la sagesse, que j'appelle des efforts initiatiques, c'est-à-dire des efforts de transformation de soi-même, pour arriver à prendre le modèle pour le garder comme modèle et ne pas le transformer ni en rival ni en obstacle. C'est-à-dire ne pas se casser la figure contre la rivalité. C'est-à-dire que si quelqu'un vous désigne, je ne sais pas, cette dame qui arrive avec un monsieur en disant « je te présente mon meilleur copain », eh ben il y a deux solutions. Ou bien le monsieur le prend tout de suite pour rival et ça va très mal se terminer, ou bien alors il le garde comme modèle en essayant de voir ce qu'on peut en tirer, ce que ce monsieur fait, quelles sont les choses intéressantes qu'on peut avoir à échanger, etc.
Et en fait,
etc.
Un bon copain.
Un bon, voilà.
Philippe est avec nous. Bonjour Philippe.
Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Alors vous avez 47 ans et vous pratiquez donc, il est question de pratiquer un trio, hein, c'est bien ça?
C'est pas qu'il est question, c'est que ça a déjà été fait.
C'est déjà été fait, d'accord.
J'ai vécu malgré moi un couple à trois lors de la séparation avec ma compagne d'alors. Bien malgré moi, puisque en fait il y avait mon fils qui était au milieu et la question s'est posée, est-ce que je devais déménager ou est-ce que je devais rester dans cette configuration-là, sachant que quand je m'absentais, si vous voulez, le nouveau compagnon de ma femme d'alors intégrait la maison et le lit conjugal.
Ah oui.
Voilà, donc j'ai eu cette expérience-là, donc ça, pour garder l'intégrité de mon fils, j'ai pris un appartement pour éviter même d'en arriver aux mains, hein, parce que ça, c'était ce genre de relation-là. Et là, maintenant, je suis avec une compagne qui, grâce aux différentes discussions qu'on a pu avoir, a pu énoncer ses envies et se lâcher et assumer un petit peu.
D'accord.
Le côté
plutôt que de retrouver un peu plus tard un amant dans votre lit conjugal, vous vous êtes dit on va directement aller pratiquer des trios, comme ça au moins je maîtrise la situation.
Non, c'est que j'étais assez ouvert d'esprit. Je suis tombé sur une femme qui l'était aussi, mais qui n'avait pas trouvé le compagnon pour. Et donc comme c'était une envie, je pense que c'était le regard en fait, le regard de l'autre qu'elle avait du mal à affronter. Et comme le mien était exempt de jugement et de jugement. Du coup, elle a pu, en toute confiance, assumer ce goût, mais ça n'intègre pas le cœur. C'est le corps qui parle là. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, oui, très bien. J'entends ça souvent, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que cet homme qui vient s'introduire, si je puis dire, dans votre couple, au fond, c'est un objet interchangeable.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Ce ou ces hommes, hein, d'ailleurs, hein, puisque ça peut, il peut y en avoir plusieurs, mais le...
Oui, bah, plusieurs, c'est d'autant plus des objets. Hein.
Voilà, tout à fait. Tout à fait. J'en veux pour preuve que pour preuve, à condition qu'elle me dise la vérité, je pense que c'est le cas. Hein.
Sinon, ne vous mettez pas à douter, Philippe.
Non, point du tout. Elle m'a dit que les rapports avec moi étaient différents, dans le sens où, effectivement, elle arrivait à toucher la, la jouissance, mais c'était une autre jouissance, en fait. Vous voyez ce que je veux dire?
Moi, je suis très frappé par ce que vous dites, parce que, si vous voulez, tout le théâtre de Sacha Guitry est construit sur des trios, mais des trios qui s'exercent dans le secret. Oui. C'est tout le théâtre de boulevard. C'est-à-dire, oui. C'est le mari, la femme et l'amant, ou le, etc. Donc, ce sont toujours des trios, des triangles, mais ce sont des triangles dont il y a une espèce de séparation, un secret qui occulte les relations, et lorsqu'elles sont découvertes, ça crée des problèmes avec à la fois des aspects comiques et des aspects tragicomiques. Enfin, c'est la structure même de tout le théâtre de boulevard. Oui. Alors maintenant, je dirais, on pourrait plus faire de théâtre de boulevard, parce que maintenant, c'est carrément, on met toutes les cartes sur la table et on dit, bon voilà, j'ai envie de tel homme, on va le faire rentrer, on va l'inviter, ou de telle femme. Et puis finalement, alors c'est peut-être très très sympathique sur le plan de l'exercice pratique, mais le théâtre est fini. Voilà, c'est dommage.
Le théâtre est fini, soit, mais
le théâtre est fini, mais la récréation commence.
Il n'y a plus de non-dit.
Oui, mais c'est la.
Il n'y a plus de non-dit. Il n'y a pas la tromperie, si vous voulez. Dans notre fonctionnement, il est hors de question que l'un parte sans l'autre.
Oui, mais j'entends bien.
C'est un fonctionnement, je pense, qui est répandu, hein. Mais il n'y a plus la source du mensonge, au moins sous point de vue sexuel, qui, à mon goût, amène le plus de discorde dans les couples.
Oui, enfin, on voit bien de toute façon que pour pas mal de couples, ça fonctionne, et tant mieux, hein. Moi, je suis pas sûre qu'on soit réellement dans des relations qui sont des relations où on y mêle vraiment ce qu'est la sexualité humaine. Je pense que c'est très opérationnel, mais ça permet de désamorcer, si je puis dire, le désir éventuel d'avoir un autre objet, comme dirait Jean-Michel Gourlian, puisque
tout à fait.
Donc ça désamorce quelque part. Hein.
Alors je pense quand même, Brigitte, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je pense quand même qu'il faut attirer l'attention de ce genre de couple et de ce genre de personnes sur quand même le fait que le désir mimétique, ça existe, et que ça peut déraper. Il y a quand même un petit danger à ce genre d'exercice. On peut pas non plus exclure.
Non, bien sûr, on entend d'ailleurs parfois des personnes qui ont dérapé.
Parce que ça peut justement déraper.
Ils ont pris le virage un petit peu trop rapidement.
Voilà, c'est ça. Puis alors, j'ai justement eu le cas très récemment d'un patient. Je peux vous le raconter en deux mots, si vous voulez bien. C'est une patiente qui était arrivée à l'âge de 37 ans sans avoir jamais trouvé l'homme de sa vie. Puis finalement, elle trouve l'homme de sa vie, elle l'épouse, et au moment où ils partent en voyage de noces, et par le plus grand des hasards, à l'aéroport, le mari dit « Ah bah tiens, il y a mon meilleur copain là qui est là, où est-ce que tu vas ?»« Bah tiens, c'est pas possible, c'est incroyable, nous prenons le même avion et nous allons dans la même destination, dans le même hôtel, mais c'est extravagant, c'est incroyable, c'est extraordinaire, bah écoute, viens avec nous, etc. » Donc ils passent toute leur lune de miel, en quelque sorte,
à trois.
Mais à trois, elle pensant dans sa tête qu'il n'y a aucun problème et que c'est un simple copain, et lui, le soir, il regagne sa chambre, il rentre dans leur chambre, et lui se comporte comme un mari parfaitement normal. Et quelques temps plus tard, étant de retour à leurs activités habituelles, elle entre par le plus grand des hasards dans la chambre à coucher sans avoir prévenu à l'avance, et elle trouve son mari avec le fameux petit copain dans une situation non équivoque. Et ça l'a amené carrément à la dépression et dans le cabinet du psychiatre, parce qu'elle s'attendait, dit-elle, à tout sauf à ça. Et donc, en conséquence, vous voyez à quel point ça peut être. Elle aurait pu, et c'est ce que je lui ai dit, elle aurait pu prendre la chose du bon côté, si je puis dire, et elle aurait pu se joindre gentiment à ce duo sympathique, mais elle, pour elle, ça n'a pas marché comme ça du tout. Ça n'a pas marché comme ça du tout, et ça ne peut parfois ne pas marcher, et traumatiser, et provoquer des problèmes psychopathologiques parfois importants.
Bon, en tout cas,
le tout étant de laisser le dialogue ouvert, hein, quel que soit le sujet, pour éviter, et peut-être éviter ce genre de choses, si ça peut.
Oui, bien sûr, mais encore une fois, enfin pour vous ça marche, Philippe, et puis je crois qu'on va pas aller vous inquiéter. Vous avez déjà subi des choses.
Ah, mais je le suis pas.
Non, mais j'entends bien. C'est bien pour ça qu'on va pas essayer. On va pas aller vous inquiéter. Merci d'avoir témoigné, en tout cas.
RMC, la haie, l'amour et vous.